que les Français.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Bien-être et Santé. Pendant une heure, nous allons vous informer, partager des conseils, échanger avec notre invité. Aujourd'hui, le dossier du jour est consacré à la déshydratation. Comment la prévenir? Que faut-il boire quand il fait chaud? Quelles précautions pour les sportifs? Nous verrons tout cela avec le docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste à Paris. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, est avec moi en studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez sexologie et conseils pratiques. Quel est le programme?
Alors côté sexo, on va se demander en fin d'émission quel est le meilleur moment pour le sexe. Je vous laisse réfléchir un petit peu.
Je réfléchis, très bien.
Voilà, et dans les petits bobos de l'été, on va parler des brûlures.
Très bien, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission Santé, Sans Rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit, Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et pour démarrer, on commence donc par évoquer les petits bobos de l'été, ces problèmes médicaux qui peuvent survenir en vacances et face auxquels on est parfois désarmé. On va parler aujourd'hui des brûlures, un accident qui peut arriver avec les barbecues notamment.
Bah oui, c'est pas toujours d'ailleurs des petits bobos. Parfois, malheureusement, c'est des gros bobos. Le relâchement de la tension au moment des vacances avec les enfants aussi, ça favorise les accidents. Évidemment, ça arrive tout au long de l'année. Savez-vous que chaque année en France, il y a au moins 400 000 personnes qui vont voir un médecin pour une brûlure.
C'est énorme.
C'est énorme. Alors, ça arrive bien sûr par surprise avec les incendies, mais le plus souvent, c'est par surprise avec les liquides chauds.
Ah oui, la casserole d'eau bouillante.
Eh ben voilà, la casserole d'eau bouillante. Mais ça arrive aussi avec le café, le thé, qui est trop chaud, par exemple. Ça, c'est responsable de la moitié des accidents domestiques par brûlure. Alors, on se méfie aussi des graisses. Il y a 2 ans, dans son livre blanc, la Société française de brûlologie, les scientifiques invitaient à se méfier des barbecues électriques de table parce que, il y a un petit récipient. Il y a un bac rempli d'eau, mais qui va aussi recueillir les graisses de cuisson. Il y a beaucoup d'accidents avec ça. Deuxième grand piège avec les brûlures, c'est qu'on les sous-estime.
Voilà. Alors, justement, comment est-ce qu'on arrive à estimer la gravité d'une brûlure? Ça se voit à l'œil?
Alors, ça peut se voir, mais là où c'est trompeur, c'est qu'il y a des zones qui sont plus vulnérables que d'autres. Il y a des surfaces plus ou moins importantes qui peuvent accentuer ou réduire la gravité. Puis il y a la profondeur de la brûlure où là aussi, il va y avoir des pièges. Les zones, par exemple.
Oui, à quel endroit du corps on sait que la brûlure malheureusement sera grave?
Bah oui, parce que pour le visage, vous y pensez spontanément. Vous savez qu'il y a un préjudice esthétique, mais il y a aussi les orifices, la bouche, le nez, et puis il y a les yeux, bien sûr. Mais là où on n'y pense pas toujours, c'est avec les pieds et les mains, par exemple. Alors que ce qui se passe, c'est que quand vous allez cicatriser de la brûlure, par exemple, au dos de la main, il y a les tendons qui passent. Si vous cicatrisez et que la peau se prend avec les tendons, vous allez avoir des rétractions, des handicaps. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et d'ailleurs, il faut penser tout de suite, si vous avez une bague et que vous vous brûlez les doigts, eh bien, à les enlever parce que ça va gonfler. Et parfois,
la brûlure ne colle pas.
C'est surtout que la bague, on va être obligé de la couper pour l'enlever si votre doigt gonfle.
Alors, on dit aussi que quand une brûlure est profonde, elle est plus grave.
Oui, c'est vrai qu'il y a 3 degrés, brûlure au second, troisième degré, vous savez tout ça. La brûlure au premier degré, typiquement, c'est la brûlure du coup de soleil.
C'est l'aspect rouge.
Voilà, c'est rouge. Par contre, au deuxième degré, c'est quand ça se soulève, ça fait des cloques. Là, il va falloir commencer à se méfier parce que si c'est superficiel, vous aurez mal, mais si c'est profond, donc plus grave, vous n'aurez pas mal parce que vous aurez détruit justement des récepteurs et donc ça n'est pas forcément un bon signe quand une brûlure avec des cloques ne fait pas mal du tout. Puis bien sûr, les troisième degré, là c'est la couche graisseuse, toute la peau et l'hypoderme est touchée, donc là la peau est blanche, brune, aspect cuir, là on est dans les greffes, voilà. Les secours vont s'en occuper évidemment.
Bon, à quel moment on appelle les secours et qu'est-ce qu'on fait en les attendant?
Alors le premier quart d'heure est vraiment extrêmement important, vous allez pouvoir limiter les dégâts parce que l'effet thermique va continuer, donc il faut refroidir en profondeur. Ça veut dire qu'on met sous le robinet d'eau froide, ça suffit, c'est parfait. Vous remettez ça, mais pendant 10 minutes au moins, pour vraiment refroidir en profondeur, c'est fondamental. S'il y a des vêtements, il va falloir de toute façon déshabiller, mais si des vêtements sont collés, vous découpez autour, vous n'essayez pas de tout arracher. Puis enfin, si la surface est importante, vous n'oubliez pas de couvrir le blessé, parce qu'il peut y avoir des hypothermies importantes secondaires.
Alors, on a une question d'une auditrice qui s'appelle Sophie.
L'été, par exemple, on fait beaucoup de barbecue. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre sur la peau? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour cicatriser et pour pas accentuer la brûlure?
Alors bien sûr, après tout ce que j'ai dit, là on va se mettre dans le cas d'une petite brûlure qui n'a pas de caractère de gravité.
Et en même temps, ce sont souvent les plus fréquentes.
Ce sont les plus fréquentes, donc il va falloir refroidir là, 10 minutes à l'eau froide du robinet. C'est quand même important pour refroidir en profondeur. N'oubliez pas d'enlever les bagues, parce que là souvent les doigts sont touchés. Ensuite, on va sécher en tamponnant avec une compresse stérile ou un linge propre, si on n'a pas de compresse stérile. Et puis enfin, on va mettre une pommade type Biafine, Cicatril ou des crèmes à base de mélange de glycérol, vaseline, paraffine. Mettez une bonne couche épaisse, soyez pas... Allez-y franco. Et puis vous mettrez un pansement sec par au-dessus.
Le beurre, comme
non,
le disaient
beurre,
nos grands-mères, on
non,
oublie.
Non, surtout pas le beurre, pas
surtout
le vinaigre,
pas la pomme de terre.
Ne commencez pas à bricoler, ça sera pris en charge. Pour l'instant, vous refroidissez, vous protégez, ça suffit.
Merci beaucoup, Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à la déshydratation et la meilleure façon de la prévenir. Quelle quantité d'eau faut-il boire? Cela varie-t-il avec l'âge? Quels sont les signes de la déshydratation? Toutes les réponses avec notre invité dans un instant. Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour avec qui nous allons parler déshydratation. Bonjour docteur Catherine Lacronière.
Bonjour Anne, bonjour Damien.
Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors on va commencer par le début. L'eau, c'est évidemment primordial pour notre organisme. Le corps est fait à quel pourcentage d'eau?
Alors, le corps est principalement fait d'eau, ça va varier en fonction de l'âge. Un nourrisson va avoir entre 75 et 80 % d'eau, c'est très important. Et puis, plus on avance en âge, un adulte va avoir à peu près 60 % de son corps qui est de l'eau, et personne âgée 50 %. Donc, vous voyez...
D'accord, on perd de l'eau avec l'âge.
Oui, parce qu'en fait, cette eau, elle se situe dans la masse maigre, dans le muscle, et c'est vrai qu'on va diminuer sa masse musculaire avec l'âge.
Il y a des différences entre les hommes et les femmes ?
Tout à fait, puisque les hommes, par définition, et c'est ainsi, ont beaucoup plus de masse musculaire, donc ils ont plus d'eau que les femmes.
Alors, ça veut dire qu'au quotidien, en fait, on a besoin de quelle quantité de liquide? Alors, on entend toujours le 1,5 litre d'eau qu'il faudrait boire. C'est quoi la réalité?
Alors, c'est vrai parce qu'en fait, les pertes sont à 2,5 litres. Elles sont principalement dans l'urine, mais également dans la transpiration, la respiration et par les selles. L'alimentation va nous amener à peu près 700 millilitres d'eau. Il faut savoir qu'il y a certains aliments qui sont d'ailleurs plus riches en eau que d'autres.
Par exemple?
Le melon, le concombre, donc beaucoup de crudités. Et puis, il faut donc 1,5 litre d'eau par jour pour atteindre ces 2,5 litres. Vous me dites, il manque quelque chose, c'est vrai. Il manque une petite partie de ce qu'on appelle l'eau endogène, c'est-à-dire une eau qu'on a déjà, qu'on fabrique. Mais sinon, tout le reste doit être apporté par la boisson et l'alimentation.
Damien Mascret.
Oui, la boisson et l'alimentation. De l'eau, évidemment, on parle de l'eau classique, mais du liquide, on en a également dans d'autres types de boissons,
je pense. Les tisanes.
Je pensais par exemple à l'alcool ou des choses
comme
ça.
Ah oui, tout à fait.
Oui. Alors, c'est possible ou pas?
Alors, c'est possible avec modération. D'abord, il faut savoir que l'alcool, ça déshydrate. C'est ainsi. Le thé aussi, d'ailleurs.
Le thé déshydrate.
Oui, tout à fait. Et en fait, la principale boisson, eh bien, c'est l'eau. C'est ce litre et demi qu'il va falloir boire dans la journée. On parle également des sodas et des jus de fruits qui sont des sources non négligeables d'apport en sucre. Il y a eu une étude de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, qui montrait que par exemple chez les enfants et les adolescents, ces boissons sucrées sont une source très importante de sucre. Donc on reste à l'eau.
Mais voilà, ça veut dire qu'il faut prendre de l'eau sans rien. Si on boit 1,5 litre de tisane, même si elle est bonne pour la santé, ça ne fera pas le même effet ?
Alors, la tisane, c'est bien aussi, mais il faut quand même se baser sur ce litre et demi d'eau, surtout dans une période estivale comme aujourd'hui, où en plus, on va avoir des pertes accrues parce qu'il fait chaud. Et on peut rajouter au-dessus du thé, de la tisane. Et on le disait tout à l'heure, le thé en grande quantité va déshydrater. Donc, il ne fera pas le travail voulu, même s'il a beaucoup d'autres bénéfices.
Alors, donc cette eau, on a vu, on en perd beaucoup. Elle a quel rôle, en fait, dans le corps? Elle nettoie?
Alors, elle a quatre rôles. Elle nettoie, entre autres. D'abord, on l'a dit, c'est notre principal constituant, le principal constituant de l'organisme. Donc, elle a un rôle de construction. Elle a un rôle de transport. Elle va amener les nutriments, les hormones, là où elles doivent aller. Puis après, elle va récupérer les déchets et elle va permettre l'élimination via l'urine. Elle a aussi un rôle chimique. Il y aura beaucoup de réactions d'une chimie de l'organisme qui vont se faire. Et puis, elle a un rôle de régulation de la température quand il fait trop froid ou qu'il fait trop chaud. Surtout quand il fait trop chaud.
D'accord. Et du coup, ça veut dire aussi que les sportifs doivent boire encore plus.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Par exemple, un marathon, si vous faites un marathon, vous allez perdre jusqu'à 4 litres d'eau. Donc, c'est les grands sportifs et les sportifs, en règle générale, les sportifs qui vont faire leur sport avec de la chaleur ont plus de risques de déshydratation.
Damien Mascret.
Est-ce que les Français boivent suffisamment d'eau?
Alors, c'est ce qu'une étude du CREDOC de 2013 a regardé. Eh bien, pas du tout. Les Français n'en boivent pas assez, adultes et enfants confondus. On pense qu'à peu près 3 adultes sur 4 n'atteignent pas ce litre et demi d'eau par jour. Et pour les enfants, il s'agit de 9 enfants sur 10 qui ne boivent pas.
9 enfants sur 10, c'est énorme.
Voilà, parce qu'en fait, là, il y a aussi une histoire d'éducation. Les enfants vont boire principalement au moment des repas. Et il faut leur apprendre à boire tout le temps. Il faudrait prendre, quand on est un adulte, 8 verres d'eau par jour.
Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez pour qu'on ait ce réflexe? Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas avoir toujours une petite bouteille avec soi. C'est quoi les repères? Il faudrait qu'on boive, je ne sais pas, 10 verres par jour. Enfin, c'est quoi l'idée?
Donc, justement, 8 verres par jour, on va commencer avec un verre d'eau au lever. On en mettra aux principaux repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mmh. On en mettra entre les repas, une petite collation, un petit stop le matin et puis un goûter l'après-midi. Donc pour les enfants, c'est aussi une bonne idée. Le matin, par exemple, quand ils sont à l'école, les maîtres et les maîtresses les encouragent à aller boire. Et puis à 4 heures, il y a cette possibilité de boire et on boira aussi au dîner et après le dîner.
Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif, en fait.
Non, alors la soif est un indicateur, mais elle n'est pas forcément présente, en particulier chez les personnes âgées. Donc, il faut boire régulièrement. Et puis, alors, quand on a soif, là, c'est certain, il faut se dépêcher de boire si on veut éviter d'être déshydraté.
Oui, parce qu'en principe, le signal de soif nous prévient quand on manque d'eau. Donc, pourquoi on dit toujours qu'il faut boire, effectivement, son litre et demi ou boire régulièrement, alors que finalement, on pourrait se dire, attendons d'avoir soif.
Alors, quand on a soif, c'est qu'on est déjà un petit peu déshydraté. Et puis, avec l'âge, on a moins ce sentiment de soif. Donc, on peut aller devant des déshydratations beaucoup plus importantes. Et puis, en ce qui concerne les petits, les nourrissons, qui sont sujets à déshydratation, eh bien là, on ne peut pas avoir cet indicateur de la soif. On aura d'autres indicateurs. Mais c'est vrai qu'il faut boire avant d'avoir soif, mais il ne faut pas non plus trop surboire.
Alors, justement, on parle des bébés ou des nourrissons, des tout-petits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de leur donner trop à boire? Ça va se réguler ou pas?
Alors, ça va se réguler via l'urine. Maintenant, il y a toujours des risques, mais on rentre dans des choses, des situations pas forcément chez l'enfant, sauf avec des parents particulièrement inquiets qui auraient en effet donné trop d'eau. Mais les cas d'hyperhydratation, on va le voir par exemple chez un sportif qui aura tellement peur de se déshydrater qu'il aura trop bu. Et on le verra dans ce qu'on appelle également la potomanie. La potomanie, c'est le fait de trop boire.
Trop boire.
Alors, soit c'est une pathologie qui est mal équilibrée ou inconnue, un diabète par exemple, va faire que la personne va beaucoup boire et ce qui fait penser à ça, c'est que c'est une potomanie, une polydipsie de nuit en particulier.
Donc les personnes qui se lèvent tout le temps pour boire la nuit, c'est un petit peu inquiétant.
Ou quelqu'un qui a très, très envie de boire la nuit, on lui proposera d'aller vérifier son taux de sucre avec son médecin traitant.
Et Damien Mascret.
Oui, c'est vrai que c'est important hein, parce qu'on a des diabètes de type 1, donc insulino-dépendants, qui commencent effectivement par ce seul symptôme. Quand les parents s'aperçoivent qu'un enfant ou un ado, ça commence parfois à l'adolescence, hein, se met à boire beaucoup et parfois se rassure en disant « oui, mais d'accord, mais il fait beaucoup pipi », bien non, s'il boit 4, 5, 6 litres dans la journée, attention, il est peut-être en train de commencer un diabète de type 1 et malheureusement, chaque année, là aussi, il y a des enfants qui commencent leur diabète, si on peut dire, par cet épisode. Donc, ne sous-estimez pas, ou si l'enfant se remet à faire pipi au lit sans raison, il faut vraiment regarder ce qui se passe.
D'accord, alors il y a ceux qui boivent trop et puis il y a ceux qu'on n'arrive pas à faire boire. Alors, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, quelles sont vos petites astuces de nutritionniste pour faire boire quelqu'un qui n'en a pas envie?
Alors, pour les petits, en plus des biberons ou de l'allaitement maternel, on va proposer des biberons d'eau entre deux biberons ou entre deux tétés. Pour les personnes...
Les enfants d'âge primaire déjà aussi.
Alors, on va leur rappeler qu'il faut boire, on va mettre de l'eau un petit peu partout. Et puis on peut mettre, si vraiment
un
l'eau...
Un peu de sirop.
Alors,
c'est
plutôt...
autorisé.
Alors du sirop, on se méfie parce que beaucoup de sirop, ça fait du sucre. Mais pourquoi pas du citron? Il y a des enfants qui aiment...
Ah oui, des gouttes de citron.
Voilà, tout à fait. Et puis il y a certaines eaux aromatisées, même si ce n'est pas la préférence des nutritionnistes, mais qui ont des goûts avec finalement un apport calorique qui reste très raisonnable. Et puis ne pas oublier de dire, voilà, de boire tout le temps. On met une bouteille d'eau au bureau, on en met à la maison, on en met dans sa voiture, on en met partout.
Dans un instant, on continue de parler de déshydratation avec vous, Catherine Lacronière.
Europe 1.
Quels sont les signes du manque d'eau? Quelles en sont les conséquences? On en parle dans un instant dans Sans Rendez-vous. Sans Rendez-vous, c'est votre émission Santé, Bien-être sur Europe 1. Autour de la table aujourd'hui, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invitée Catherine Lacronnière, médecin nutritionniste à Paris. Nous parlons de l'importance de l'eau pour l'organisme et du risque de la déshydratation. Alors, quels sont les signes, docteur Lacronnière, qui doivent nous alerter qu'il y a un manque d'eau ?
Alors, le premier grand signe, c'est la soif. Mais ce n'est pas le seul. On est fatigué de manière un peu anormale. On peut avoir les lèvres sèches. Et on peut, si la déshydratation est plus importante, avoir ce qu'on appelle un plus cutané. Donc, quand vous vous pincez...
Ah oui, c'est ce que font les médecins. Voilà, exactement. Ils pincent le dos de la main, c'est ça?
Alors, normalement, quand vous pincez le dos de la main, eh bien, très rapidement, quand vous relâchez, la peau doit revenir à la normale. Quand vous êtes déshydraté, ce pli un peu fripé reste. Et c'est un signe de déshydratation. Il faut donc faire très attention. Aussi, chez les enfants, il y a un comportement anormal, une fatigue, un enfant qui gémit, qui se tortille. Ça, il faut vérifier.
Alors, je crois qu'il y a aussi la couleur des urines qui peut être un indice.
Exactement, puisque le corps est bien régulé, en tout cas à l'âge adulte. Il va, quand il n'est pas assez hydraté, il va retenir ses urines et les urines vont être beaucoup plus condensées, beaucoup plus foncées. Et ça, c'est quelque chose qui peut expliquer d'ailleurs la déshydratation de la personne âgée, parce que chez la personne âgée, ce mécanisme se fait moins bien. Chez le nourrisson, ce mécanisme ne se fait pas bien non plus, puisque les reins sont encore immatures. Et en fait, on va perdre beaucoup. Les urines ne gardent pas. Elles vont être aussi abondantes que s'il y avait assez d'eau. Donc, attention aux couleurs des urines, mais ce n'est pas le seul signe.
Le seul critère. Damien Mascret.
Oui, les couleurs des urines, en plus, ça amuse beaucoup les enfants. Et je trouve que c'est une façon intéressante d'attirer leur attention sur le fait qu'ils boivent moins. Moi, je sais qu'avec mes filles, c'est ce que je faisais en vacances. Je leur disais, comment est la couleur de ton pipi? Parce que s'il est trop foncé, c'est que tu n'as pas assez bu. Et effectivement, les enfants prennent l'habitude de regarder un petit peu ce signal et se rendent compte très bien qu'effectivement, ils ne boivent pas assez.
D'accord. Souvent. Donc après, foncé, clair, c'est subjectif. Mais voilà.
Ils comprennent très bien. Oui.
Très bien. Il y a un autre moyen, c'est quand on a des bouffées de chaleur quand on boit. Parfois, ça peut être le signe aussi qu'on est déjà en déshydratation.
Alors, quand on a, disons que la chaleur, la fièvre peut être un des signes d'une déshydratation. Il y a aussi le poids du corps, c'est-à-dire que, alors vous n'allez pas vous peser toutes les 5 minutes, mais une perte de poids chez l'enfant, le petit enfant, chez qui la déshydratation peut être assez rapide, est un signe non négligeable.
Alors, on s'inquiète de la déshydratation, pourquoi? Parce que ça a quelles conséquences, en fait, sur l'organisme?
Alors, la déshydratation, elle peut être très dangereuse très rapidement, surtout chez les personnes âgées. Elle peut même aller jusqu'au risque vital. On a dit que l'eau était le principal composant de l'organisme, donc nous en avons besoin pour fonctionner. Et quand on a une déshydratation, par exemple, chez une personne âgée, on va aller jusqu'à l'hospitalisation pour pouvoir la prendre en charge très rapidement.
Damien Mascret.
Oui, on parlait il y a un instant des enfants, des bébés. Quels sont plus spécifiquement les signes qu'on peut voir chez un enfant qui indiquerait justement, alors c'est plus souvent peut-être quand il y a de la fièvre ou si on le couvre trop quand il fait chaud, mais qui indiquerait qu'il est en train de se déshydrater?
Alors il est pâle et il peut avoir les yeux cernés. Ça, c'est quelque chose à regarder. Et aussi, on regarde du côté des fontanelles. Si on sait où c'est, sur le haut du crâne.
Ouais.
Tout à fait. Eh bien, on touche et on voit qu'elles sont... elles vont répondre beaucoup plus. Elles ne sont pas... fermés comme d'habitude. Donc ça, c'est un des signes. Et puis, quand on réhydrate un enfant avec, parce qu'on va leur donner, les petits, au départ, possiblement des solutions de réhydratation, bien quand l'enfant va continuer à vomir, malgré ces solutions de réhydratation, c'est que la déshydratation est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait.
Et là, c'est une urgence.
Oui, là, c'est une urgence.
On a combien de temps pour réagir quand on commence à percevoir des symptômes
comme ça? Il faut appeler tout de suite. Le 15. Oui, parce que le médecin traitant n'est pas forcément disponible. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on rentre dans une période d'été. La chaleur est une cause de déshydratation. Donc, ne pas hésiter, appeler rapidement.
Alors, C'est parfois dans ces cas-là qu'on s'autorise pour essayer de faire garder l'eau, à donner des boissons un peu sucrées, par exemple, pour qu'il y ait plus de chances qu'ils ne vomissent pas tout de suite. Mais encore une fois, ça ne remplace pas les pertes. Si l'enfant vomit beaucoup, faut quand même, c'est en attendant les secours.
Voilà, mais c'est vrai. Même chez l'adulte, on va donner, quand on veut réhydrater rapidement, des solutions sucrées ou même des solutions salées. Parce qu'en fait, l'eau n'est pas simplement un liquide. Elle contient des sels minéraux. Et la déshydratation, c'est à la fois la perte donc d'eau et de sels minéraux. Donc en donnant des solutés ou des boissons un petit peu sucrées ou du bouillon, par exemple, chez l'adulte en tout cas, parce que le bouillon chez le bébé, ça passera probablement moins facilement, eh bien, on peut déjà commencer à réhydrater en attendant.
Alors, c'est une urgence. Alors, on comprend bien parce que ça fait dysfonctionner l'organisme. Mais il peut y avoir des séquelles sur les reins, sur le cerveau. Il peut y avoir des traces d'une déshydratation à long terme.
Si on réhydrate vite, les choses vont vite se remettre dans l'ordre. Il faudra faire attention que ça ne recommence pas. Je pense qu'il faut en effet rester vigilant, surtout avec les personnes en fonction de l'âge qui peuvent être plus à risque de déshydratation.
Oui, parce que c'est vrai que l'étape suivante, d'abord, les urines vont être concentrées, foncées, on l'a dit, mais l'étape suivante, c'est que les reins s'arrêtent, puisqu'il faut garder l'eau en priorité, évidemment, pour le corps. Donc, à un moment, on arrête, là, on n'a plus d'urine du tout, parce que, effectivement, la priorité, c'est garder l'eau qui reste.
Alors, c'est une question qui revient souvent dans le Trivial Poursuite. On peut rester combien de jours sans boire? Il y a plein de réponses qui existent. Vous dites quoi?
Alors, moi, je dirais qu'en fait, on peut jeûner, ne pas manger pendant longtemps, mais on ne peut pas s'arrêter de boire, normalement. C'est très rapide. Je pense qu'on peut, au maximum, vous me direz ce que vous en pensez, docteur Mascret, mais 3 jours maximum, déjà...
Oui, surtout si les conditions extérieures sont difficiles, c'est clair que là, rapidement, à partir du moment de toute façon où on commence à avoir les troubles de la conscience, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on parle de grève de la faim, évidemment, on continue l'hydratation.
Ah, hein.
C'est pour ça que vous avez parfois des records qui atteignent, qui dépassent même le mois, ou voire plus de 2 mois, avec un amaigrissement important. Mais évidemment qu'on continue de s'hydrater, sinon ça s'arrête beaucoup plus vite.
Et le traitement, c'est quand on est hospitalisé pour une déshydratation, on est perfusé?
On est perfusé, tout à fait. Ça, parce qu'il faut recharger rapidement en eau et en minéraux. Donc, c'est la perfusion.
On va poursuivre cette conversation dans un instant avec vous, Catherine Lacronnière.
Europe 1.
Il faut boire 1,5 litre d'eau, on l'a dit. Mais alors, quelle eau choisir? Il y en a plein dans les rayons des supermarchés. On va en parler dans un instant. Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui des dangers de la déshydratation avec le docteur Damien Mascret et notre invité du jour en studio, le docteur Catherine Lacronnière, médecin nutritionniste à Paris. Catherine Lacronnière, donc vous nous avez dit qu'il faut boire en théorie 1,5 litre d'eau. Est-ce que dans ces 1,5 litre d'eau, voilà, c'est de l'eau minérale, c'est de l'eau en bouteille, il faut avoir des minéraux particuliers? Qu'est-ce qu'on choisit?
Alors, à chaque âge, son eau. Pour les enfants qui vont être nourris avec un lait maternisé, on va utiliser une eau sans minéraux, puisqu'on sait exactement ce qu'il y a dans la poudre de lait.
D'accord.
Et qu'on ne va pas vouloir rajouter des choses supplémentaires. Donc là, c'est vraiment
une autre,
eau.
Quoi.
Voilà, et ça va être une eau minérale naturelle, sans minéraux. Par contre, plus tard, on va avoir besoin de minéraux. Il y a une étude, encore la même, celle du Crédoc en 2013, qui montrait que à peu près 38-40% des personnes, hommes et femmes confondus, avaient un déficit d'apport en calcium et en magnésium. Et certaines eaux riches en minéraux peuvent justement aider à pallier cette insuffisance.
Alors, est-ce qu'on peut citer des exemples de minéraux utiles dans telle ou telle pathologie ou besoin, tout simplement?
Alors, le calcium, surtout chez les personnes qui ont décidé de ne plus manger de produits laitiers de vache, eh bien, ce calcium, il est primordial pour la santé des os, surtout après la ménopause chez les femmes, et surtout aussi au cours de la croissance, puisqu'on construit son os pendant toute l'enfance et l'adolescence. Donc, ce calcium, on peut en avoir dans les os. Le magnésium également, qui participe aussi à la bonne santé de l'os, mais aussi à la bonne santé du muscle. Et une bonne partie de la population française peut avoir une insuffisance en magnésium. Donc au lieu d'aller manger du chocolat, c'est quand même peut-être plus simple et plus safe de le trouver dans les os. Et puis, il y a le sodium. Alors ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut se méfier. Le sodium, c'est ce qui va tout à fait donner le sel. Il y a certaines personnes qui ont des pathologies nécessitant une limitation du sel, en particulier quand on a une hypertension artérielle ou une insuffisance cardiaque. Là, le médecin, clairement, l'a indiqué, il faut limiter le sel. Donc, il faut regarder les étiquettes nutritionnelles qui figurent sur les os. Et il est bien indiqué que sur certaines eaux, on est en dessous de la dose de sel nocive potentiellement pour ces patients. Mmh. Et à ce moment-là, on fait attention à ces étiquettes et on fait ça. Et puis pour le calcium, on peut aussi se méfier, c'est important d'en avoir. Mais quand vous avez fait un calcul avec du calcium, un calcul rénal, eh bien votre médecin va vous dire peut-être d'être vigilant et on va éviter de prendre trop de calcium. compris dans les os.
Oui, alors hors des pathologies, effectivement, des maladies, on recommande parfois de varier les eaux. Alors certes, les goûts sont différents, mais est-ce que c'est si important que ça ou au fond, l'essentiel, c'est d'avoir de l'eau?
Alors l'essentiel, c'est en effet avoir de l'eau. Maintenant, ça dépend de votre situation. Une femme enceinte, on va vouloir quand même qu'elle ait plus de calcium. Donc on va probablement lui proposer... En plus, parce que c'est vrai que maintenant, on donne des compléments vitamines et minéraux, mais on va lui proposer déjà de l'avoir naturellement dans les os. On varie les os, en effet, mais par exemple, si on a un trouble du transit, on va choisir une eau qui a plus de magnésium. Donc, tout dépend de la période de la vie, de la situation de chaque personne, pour choisir les eaux adéquates.
Et c'est quoi les eaux pour la constipation, d'ailleurs ?
Alors, ce sont les eaux riches en magnésium. Je ne sais pas si je ne citerai pas de marque, mais...
On en connaît des petites bouteilles, effectivement. L'eau du robinet, tout simplement, vous la conseillez ?
Alors, l'eau du robinet, oui, on la conseille. Simplement, par rapport à une eau minérale naturelle, elle aura des variations, des variabilités au niveau de son contenu en minéraux. Mais bon, c'est une excellente eau qui a été vérifiée au niveau microbiologique, bien sûr. Donc, ça fait partie des choix, du grand choix des eaux.
Et alors, d'un point de vue global pour la digestion, eau pétillante ou eau sans bulles, qu'est-ce que vous dites ?
Alors d'abord, c'est une question de goût. Maintenant, chez les personnes qui ont des petits soucis digestifs, ballonnements et autres, les eaux très pétillantes peuvent être éventuellement mal
tolérées.
Ça va
augmenter les
ballonnements. Va augmenter, donc là, on ira plutôt sur l'eau plate. Par contre, si vous venez de faire un repas un petit peu gras et un petit peu lourd, vous serez content d'avoir votre eau gazeuse.
On n'a pas parlé de la température de l'eau, mais est-ce que c'est important d'avoir une eau plutôt à température ambiante, une eau bien fraîche ? C'est ce qui désaltère le plus, en tout cas c'est ce qu'on recherche le plus quand on a soif. Mais du point de vue du corps, qu'est-ce qui est le plus important dans ce cas-là ?
Alors, cette eau froide qui va nous rafraîchir, c'est un peu comme la soupe, c'est un effet très transitoire. Donc ça vous rafraîchit sur le moment, puis après, eh bien...
Le corps réchauffe l'eau fraîche, de toute façon.
Exactement. En revanche, il y a une recette de grand-mère qui est tout à fait juste, qui est le fait de prendre un grand verre d'eau glacée à jeun le matin pour les gens qui ont des problèmes de transit. Ça va améliorer,
activer la circulation.
C'est ce qu'on dit en tout cas. Je ne sais pas s'il y a énormément d'études scientifiques là-dessus, mais dans le vécu, dans le quotidien, c'est vrai.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que le thé pouvait déshydrater. Pourquoi ? Et puis, est-ce que c'est la même chose avec le café ?
Ça vous embête, ça. Hein ?
Ouais. Oui, j'en bois beaucoup, ça m'énerve.
Oui, non, je vois, vous insistez.
Ça m'embête.
Parce que son action sur le rein va faire qu'on a plutôt une élimination. Il est diurétique, ce thé. Donc, il va vous faire éliminer l'eau. Beaucoup plus que si c'était de l'eau. Ça agit au niveau des hormones qui gèrent l'élimination d'eau. Donc, un peu thé, oui. Bon, maintenant, il faut boire vraiment beaucoup, beaucoup hein, pour pouvoir être déshydraté.
D'accord.
Et ne boire que du thé. Parce que sinon, le thé, je le rappelle, c'est une boisson que j'apprécie beaucoup parce que, en particulier quand il est vert ou quand il est blanc, il a beaucoup de polyphénols antioxydants. Donc, il ne faut pas le mettre au banc des accusés.
Et le café ?
Alors, le café, il va pas spécialement déshydrater. C'est l'eau.
C'est pas diurétique, le café.
C'est diurétique également. Donc, on peut continuer à prendre du café, mais n'oubliez pas l'eau.
C'est une bonne drogue, on dit toujours le café. C'est vrai que les personnes âgées, parfois, c'est un peu triste de les priver de leur café si ça leur fait plaisir. C'est pas ça qui va les déshydrater.
Non, c'est pas ça qui va les déshydrater. Surtout qu'on sait aujourd'hui que le fait de boire du café à partir du milieu de vie, de manière régulière, pourrait limiter les premiers signes d'Alzheimer.
Alors, on a dit en début d'émission qu'il y avait 700 millilitres d'eau à peu près qui provenaient des aliments solides. Qu'est-ce qu'il faudrait consommer régulièrement pour être sûr d'avoir la bonne dose de liquide ?
Alors, c'est la saison parfaite pour consommer des fruits et des légumes qui sont particulièrement riches, surtout quand ils sont crus, donc sous forme de crudité. Le melon,
le fenouil,
la pastèque,
concombre.
Le concombre. Allons-y vraiment sur tous ces produits de saison qui sont très riches en eau et qui font une partie non négligeable de nos apports au quotidien.
Et les glaces ? Qu'est-ce que vous en dites ? Elles sont alors les sorbets notamment. Il y a pas mal d'eau.
Les sorbets, on se donne bonne conscience. Voilà. Les sorbets plutôt non.
Les sorbets. Il y a beaucoup d'eau dans les sorbets. Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Il y a de l'eau dans les sorbets, mais malheureusement il n'y a pas que ça. Il y a également du sucre. Dans les glaces, il y a un peu de graisse aussi. Mais d'abord c'est vrai que ça fait du bien au moral. C'est la saison. Tant qu'on reste raisonnable, mais je ne conseillerais pas ça pour une réhydratation en urgence.
Mais quand vous dites raisonnable, c'est une glace par jour, c'est ça ?
Pourquoi pas ?
On peut aller jusqu'à une glace par jour.
Oui, tout dépend de votre... J'irai plus sur le sorbet si vous faites un peu attention à votre poids. Et puis, je ne mangerai pas le cône avec.
Très bien. Question de saison. On parle de l'eau. Est-ce que rester dans une piscine ou aller se baigner régulièrement, ça peut contribuer à retarder une déshydratation, ou alors ça n'a rien à voir?
Non, ça vous rafraîchit, ça c'est sûr, mais en fait c'est l'eau que vous ingérez, donc à moins que vous buviez beaucoup,
oui,
souvent la tasse, et on va éviter. Et on peut se déshydrater dans une piscine, hein. Si on reste longtemps avec la tête à l'extérieur de l'eau, au soleil,
donc au contraire, il faut faire
même
attention.
Tout à fait, vous savez que les grands nageurs boivent, ils ont de l'eau hein, au bout de leur ligne, et ils boivent régulièrement.
Alors oui, on est dans la piscine, mais quand on sort de la piscine, si on est à un endroit où il y a du vent, par exemple, ou alors s'il y a une ventilation d'ailleurs, ou un ventilateur, est-ce qu'on n'accélère pas la déshydratation?
Si, ça c'est une des raisons qui fait que la déshydratation peut être accélérée. Donc méfiance avec tout ça, il faut d'autant plus boire régulièrement et avoir, quand on fait du sport, une bouteille d'eau. On va boire d'ailleurs avant l'effort, un peu. On n'a pas besoin de boire beaucoup, on va boire si possible pendant l'effort et on va boire après l'effort. Si on boit beaucoup aussi, là, ça peut être mal toléré et donner des troubles digestifs. Ça nous amène aussi aux boissons qu'on peut donner aux sportifs qui font des courses et qui peuvent être des boissons, pas uniquement de l'eau, mais des boissons...
énergétiques, énergisantes,
voilà,
enfin, je sais pas
c'est
laquelle
ça.
Vous préconisez.
Voilà,
mais...
écoutez, moi je préconise de l'eau parce que, bon, certes, il y a des pertes de minéraux importants, mais là encore, quand on n'est pas habitué, ça peut donner des troubles digestifs et méfiance hein, quand on fait un marathon, c'est pas très agréable.
Oui, alors puisqu'on parle des troubles digestifs, je voulais rebondir un petit peu là-dessus, parce que parfois on dit aussi que les fruits en excès peuvent, ou le jus de fruits, ou le jus d'orange en excès, peut au moins donner mal au ventre, ou même faire des pertes d'eau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende?
Non, c'est vrai parce que, en fait, si vous mangez beaucoup, beaucoup de fruits, vous allez accélérer votre transit et la diarrhée est une des raisons, finalement, de déshydratation. Donc, à trop bien faire, finalement, on obtient juste le contraire de ce qu'on veut. Donc, encore une fois, comme souvent en nutrition, restons dans la modération et le plaisir.
Merci beaucoup, docteur Catherine Lacronière, d'être venue nous éclairer. On rappelle le titre de votre dernier livre. Ça s'appelle « L'alimentation anti-inflammatoire » et c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec des conseils pour booster son mental pendant l'été et la chronique sexo de Damien Mascret. À tout de suite. Sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h et nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours vers 15h40, nous parlons psychologie et habitudes personnelles pour améliorer le bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne ses pistes, ses secrets, ses astuces pour nous aider. Aujourd'hui, c'est Nicole Prieur qui est avec nous. Bonjour Nicole.
Bonjour Anne, bonjour Damien.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et thérapeute et aujourd'hui c'est vous qui allez nous aider à améliorer nos petites habitudes quotidiennes. Si on vous demande, Nicole, 3 clés pour recharger son énergie mentale cet été, qu'est-ce que vous nous répondez?
Alors des clés qui seront inspirées d'hypnose,
oui,
par exemple. J'aime beaucoup, par exemple, faire des bains de sensorialité. C'est-à-dire un petit peu apprendre à développer nos 5 sens, tout en faisant par exemple du vélo, tout en cuisinant, tout en ne faisant rien sur la plage. On peut s'amuser à regarder de plus près les images, les couleurs. On peut s'amuser à développer aussi notre ouïe, la rendre un peu plus fine. On peut développer aussi le goût, imaginer le goût par exemple de l'écume. On peut aussi développer notre odorat. Et toucher, par exemple, si on est sur le sable, toucher un petit peu cette douceur du sable ou des fruits de l'été. Tout ça pour laisser entrer dans notre corps ces sensations qui sont un petit peu naturelles et qui nous donnent vraiment le sentiment d'être vivant, si vous voulez.
D'accord.
On ressource cette vitalité que l'on a en nous en développant notre sensorialité.
D'accord. Et donc, on nomme intérieurement toutes les sensations qu'on vit, c'est ça?
Voilà, on les nomme et surtout on les laisse se déployer en nous, on les laisse se développer, on les accentue. C'est comme si on enregistrait en nous un catalogue de très bonnes sensations qui vont nous accompagner dans les jours qui suivent et quelquefois même dans les semaines qui suivent pour nous recharger en énergie et pour nous recontacter constamment avec cette nature qui nous fait du bien. On incorpore, comme on dit, les indications, les sensations de nos cinq sens, justement.
Damien Mascret.
Oui, en somme, il faut éviter d'être en mode pilotage automatique.
Exactement. Il faut être vraiment, il faut, j'aime dire, prendre le temps de goûter, le temps de savourer. Et ça ne prend pas du temps. C'est en le sens qu'on ne va pas s'arrêter pour le faire, mais tout en faisant nos activités habituelles. Encore une fois, on s'amuse à voir un éclat de soleil sur les vagues. On s'amuse à voir le jeu d'ombre dans les feuilles. Et on capte cette image et on la laisse un petit peu vibrer ou même, ce que j'appelle moi, se développer dans notre corps. On la met, par exemple, si on entend les oiseaux, on peut mettre ce chant d'oiseau dans nos épaules, dans nos mains. D'abord, c'est amusant. Et en même temps, ça nous fait participer à cette nature qui nous environne. Et on devient un élément vivant de ce vivant qui nous entoure.
Donc, la première clé, c'est de faire des bains avec ces cinq sens. La deuxième clé, ce serait quoi ?
Alors, la deuxième clé, c'est finalement, c'est l'effet inverse. C'est au contraire se créer une bulle imaginaire pour se couper du monde et justement retrouver un petit peu notre assise personnelle, notre espace personnel. Alors, on peut s'accorder, là, du coup, on s'isole quelques secondes, on se met sur un fauteuil, on trouve une place confortable et on fait comme si on fermait la porte au monde extérieur. On laisse les nuages s'envoler dans le ciel et nous-mêmes, on se ferme un petit peu au monde extérieur et on imagine autour de nous une bulle transparente, légère, qui nous permet de prendre un petit peu de la hauteur. Et j'ai envie de dire, on laisse un petit peu les contraintes et les choses un petit peu lourdes derrière nous pour trouver un petit peu de la légèreté.
D'accord.
Et du coup, dans cette bulle, on se déploie, on s'ouvre, on trouve notre place. Et ça donne aussi un sentiment de grande sécurité intérieure, parce qu'on se sent en sécurité dans cette bulle.
D'accord, la bulle de tranquillité. Et la troisième clé ?
Alors, la troisième clé, c'est aussi un exercice un petit peu étonnant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le pratiquer, c'est tout simplement devenir un arbre.
Expliquez-nous.
On s'amuse à regarder un arbre que l'on trouve joli devant nous, ça peut être un cerisier, un peuplier, un chêne, peu importe. On le regarde tellement, on le sent tellement être près de nous qu'on essaye de devenir un arbre, c'est-à-dire de sentir nos racines, nos pieds prendre racine, prendre place, s'ancrer dans le sol, la solidité du tronc de notre corps et la légèreté du feuillage de notre tête. Et quand on arrive à faire cette expérience, bien sûr, ce n'est pas en quelques secondes, il nous faut du temps pour le faire, mais quand on s'exerce à le faire, ça donne un sentiment de très grand ancrage et comme les arbres, on peut résister aux tempêtes, on peut rester debout et on peut rester finalement droit dans nos baskets et malgré les vents un petit peu contraires. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est une clé que j'aime beaucoup, mais qu'il faut un petit peu pratiquer quand même pour qu'elle soit vraiment efficace.
D'accord.
Mais donc on peut tenter de le faire.
Le bain des cinq sens, la bulle de tranquillité et l'exercice de l'arbre. Voilà, ce sont des exercices inspirés de l'hypnose que vous pratiquez.
Tout à fait. Je pratique l'hypnose évidemment clinique dans les situations de thérapie. Hein. L'hypnose, donc, pour simplifier un petit peu les relations familiales, pour trouver un peu plus de confiance en soi, pour alléger ses angoisses. Voilà, c'est dans ce contexte-là que j'utilise l'hypnose. Mais ces exercices sont des exercices vraiment de base que les patients très rapidement intègrent et transforment. Et ce qui est important dans l'hypnose, c'est qu'au bout d'un moment, quand on la pratique, chacun crée sa propre hypnose. Chacun va créer ses propres métaphores et ses propres images qui lui font du bien.
Merci beaucoup, Nicole Prieur. On rappelle le nom de votre site internet pour les auditeurs qui veulent en savoir plus. Ça s'appelle paroledepsy.com. Merci infiniment pour ces conseils.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Europe 1. Votre émission santé continue dans un instant avec la chronique sexo. Et au programme, Damien Mascret.
On va se demander quel est le meilleur moment pour le sexe. Vous allez voir, c'est pas forcément celui auquel vous pensez.
Mais vous ne savez pas à quoi je pense. A tout de suite sur Europe 1. C'est votre émission Santé et bien-être. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler du meilleur moment pour faire l'amour. C'est quand on a envie, c'est ça?
Eh bien, pas seulement, figurez-vous. Parce que, alors évidemment, il faut que l'autre soit disponible. Alors, sauf bien sûr pour les activités en solo, mais on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui. En réalité, vous avez envie parce que vous êtes disponible. Mais il va falloir vérifier que votre partenaire l'est aussi. Voilà. Et en fait, cette disponibilité repose sur trois plans différents. Il faut être disponible physiquement, mentalement et émotionnellement.
Alors, physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en forme, ne pas être endormi ne...
Alors, ça veut dire... Ça peut avoir son charme, hein, le sexe dans un état semi-comateux quand on est endormi avec une personne qu'on aime et en qui on a confiance. Mais non, globalement, oui, il faut de l'énergie pour la sexualité. Il faut pouvoir y consacrer de l'énergie. C'est important parce qu'on a des personnes, par exemple, qui sont malades. Alors, bien sûr, il y a le syndrome de fatigue chronique, par exemple, mm-hmm. hein, mais même des maladies qui sont fatigantes. Et dans ce cas-là, on apprend à gérer sa journée avec la quantité d'énergie dont on dispose. C'est un peu comme si vous commencez votre journée avec une batterie de smartphone chargée à 30%. Il faut apprendre à la gérer, à quel moment vous l'utilisez. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut savoir à quel moment vous allez placer la sexualité, peut-être au moment où vous avez beaucoup d'énergie, ou la laisser optionnelle ou facultative si vous n'en avez pas assez. Mais en tout cas, il faut avoir une démarche volontaire, proactive par rapport à cette disponibilité, cette énergie. Alors, bien sûr, si on est malade, ça n'empêche pas la sexualité, évidemment.
D'accord. Et vous nous avez dit, il faut être disponible intellectuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, parce que là aussi, si vous avez envie de sexe, c'est que vous êtes disponible. Vous avez fait le ménage un petit peu dans vos préoccupations, dans le stress, dans l'anxiété. Parfois, c'est un moyen de s'en décharger, c'est vrai. Mais pour beaucoup de personnes, quand elles sont préoccupées, quand elles sont soucieuses, quand elles attendent des résultats de quelque chose, quand elles sont préoccupées par quelqu'un, ou quand elles sont stressées par leur travail, par exemple, hein, ou autre chose, eh bien, c'est difficile d'être disponible mentalement, intellectuellement pour la sexualité, pour entrer dans une relation avec l'autre. Et parfois, eh bien, c'est là-dessus que ça peut coincer. Il faut avoir aussi...
Du coup, il faut discuter. Il faut
reporter. Hein. On n'est pas obligé. Voilà. On peut même s'engager dans la sexualité. Le désir sexuel, parfois, un peu comme l'appétit, vient en mangeant. On avait un petit peu envie, on commence. Et puis, si ça ne marche pas, ben, on a parfaitement le droit d'arrêter. Encore une fois, on n'a pas signé pour avoir l'entrée, le plat et le dessert.
Alors, disponibilité physique, intellectuelle et, vous disiez, émotionnelle.
Oui, alors là, c'est peut-être aussi ce qui est le plus difficile. D'abord, c'est difficile à évaluer chez le partenaire dans quel état émotionnel est son partenaire parce que bien, tout n'apparaît pas, tout n'est pas dit. Hein. Il y a des couples et des personnes qui ont parfois du mal à dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles éprouvent. À l'inverse, il y en a d'autres qui le disent et le font très facilement. Donc, tout le monde est différent et il faut savoir qu'effectivement, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous a pas dit que, par exemple, vous l'agaciez ou qu'il n'est pas agacé. Et là aussi, il y a des gens qui ont une capacité à compartimentaliser très facilement. C'est-à-dire que même si, à la limite, on s'est engueulé avec sa partenaire ou son partenaire, eh bien, une demi-heure après, on peut s'engager dans la sexualité. Mais non, ce n'est pas forcément le cas pour votre partenaire. Si tout n'a pas été réglé, il peut y avoir ce qu'on appelle du ressentiment, hein, c'est-à-dire que voilà, on a laissé encore une fois couver quelque chose. Et ça ne nous met pas dans une disponibilité émotionnelle pour la sexualité. Or, contrairement à ce que pensent certains, on a besoin d'un minimum de connexion, ce qu'on appelle des rencontres occasionnelles, où on pense qu'il n'y a absolument aucun sentiment. En réalité, il y a bien quelque part une connexion des émotions. Et si vous n'êtes pas disponible, eh bien, ça va être très difficile d'enclencher le cycle du désir. Si vous avez du mal à enclencher le cycle du désir et que vous continuez malgré tout, eh bien, votre corps va avoir du mal à suivre cette fois. Et puis surtout, par la suite, vous risquez de désamorcer complètement la pompe du désir parce que vous vous engagez dans un acte que vous ne vouliez pas pleinement. Ça ne marche pas. Il vaut mieux arrêter. Il ne s'agit pas d'avoir un partenaire immature hein, qui veut absolument continuer ou qui est en colère ou qui boude. Il faut aussi accepter ça parce que ça arrive à tout le monde d'avoir effectivement une disponibilité qui ne marche pas ce jour-là ou cette nuit-là.
Et donc la solution pour être synchrone, c'est d'échanger, de discuter, voilà, de dire où on en est.
C'est là où parfois ce qu'on n'assimile pas à de la sexualité ni même à des préliminaires, en fait c'est déjà des préliminaires à la sexualité. Le fait de discuter avec votre partenaire, le fait de prendre le temps de préparer le pas ensemble. Bref, des activités qui apparemment n'ont rien à voir avec le sexe, en réalité, vous mettent dans une sorte d'harmonie. Vous êtes en train de recadrer vos émotions, vos mentales et finalement vos corps également.
Merci beaucoup, docteur Damien Mascret.
Les meilleurs conseils pour votre santé et votre bien-être, on les partage avec vous tous les jours de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Merci à vous Damien Mascret, merci à Maryse Jacquet, à Benjamin Lévesque qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à 15h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Googler. Bonjour Philippe.